Bonjour, je suis dans les locaux de la Société de recherche archéologique du pays chauvinois en vue d'écouter et d'enregistrer une conférence donnée par Muriel Giraudeau concernant le Lomus. Lomus qui s'écrit AUMU2SE, qui est une coiffe au poil. En fait, c'est pas un chapeau à plumes, c'est une coiffe portée par des ecclésiastiques. Et vous allez écouter la conférence, vous en saurez plus là-dessus.
Bonsoir à tous. Comme ça a été dit, je m'occupe de la micropholie au château d'Harcourt et j'ai fait aussi partie du service des musées. Donc on discute pas mal et on se lance dans des projets parfois un petit peu fous. Donc on avait refait le focus il y a 2 ans, je crois que c'est ça. On a réfléchi à d'autres petits projets et donc cette année on s'est lancé dans l'idée de refaire une Lomus. C'est parti des gisants qui sont à la collégiale. Il y a 2 gisants dans la collégiale Saint-Pierre, l'un qui est au sol et l'autre qui est dans un enfeu. Ces gisants représentent des chanoines et sont identifiables comme chanoines, notamment grâce à leur tenue. Donc vous avez la photo de celui qui est au sol sur le diapositif, la diapositive, pardon. Leur tenue est très caractéristique, et notamment leur coiffure. Donc c'est ce qu'on appelle une Lomus, et c'est ça que l'on a décidé d'essayer de reproduire, alors d'étudier, puis de reproduire si c'était possible. Je suis partie dans un premier temps sur une étude historique, pour voir ce qui avait déjà été fait, notamment sur les études de Lomus, du costume, de sa définition, de son évolution, puisqu'on s'est vite aperçu qu'il avait quand même que Lomus avait pas mal évolué au fil du temps. Et ensuite une deuxième partie pour essayer de reconstituer en réel une Lomus dans la mesure du possible. Donc la première question, c'était de définir qu'est-ce qu'une Lomus. Et alors là, ça a été très varié. Donc on a de nombreuses définitions, suivant les dictionnaires, les auteurs, les époques. Donc j'ai essayé d'en faire une petite synthèse. On n'a aucune certitude sur l'étymologie du mot, même si globalement ça se rapproche... les auteurs avancent souvent une origine possiblement arabe ou latine. Globalement... ça se réfère à des mots qui parlent d'un manteau de fourrure ou d'un capuchon, pour résumer assez rapidement. Et ensuite, on va avoir toute une panoplie de définitions. À l'origine, Lomus, ce serait sûrement un bonnet en peau de mouton avec le poil à l'intérieur, formant 2 cornes ou 2 bosses sur la tête. C'est ce que vous avez totalement à gauche. Ça aurait évolué ensuite en changeant les fourrures utilisées, en se rallongeant. Et là, on va avoir toute une variété d'omus très différentes. Donc on pourrait définir ça comme une pèlerine qui couvre la tête et les épaules. C'est à peu près la seule caractéristique commune à toutes les omus qu'il va y avoir après et encore. Le capuchon peut être présent ou non. Descendre sur les épaules ou plus bas, en pointe ou pas, être muni de pendeloques ou pas, avoir une corne, une pointe ou 2 cornes ou pas du tout. On va avoir toutes sortes de fourrures ou alors un seul côté en fourrure à l'extérieur, à l'intérieur. Bon, on va avoir toute une variété. Toujours est-il que donc on passe du bonnet à la pèlerine, ce que vous avez en deuxième. Et ensuite, on va avoir une évolution, notamment pour les chanoines, donc qui est un peu plus tardive que, enfin, qui est totalement plus tardive que les gisants, où Lomus va devenir un simple rectangle assez long, dont une des extrémités est repliée et cousue pour former une sorte de poche qui servira de capuche. Elle se porte essentiellement au bras. On va y revenir après. Ce que l'on peut retenir aussi, c'est que, de manière assez générale et assez unanime, les auteurs semble différencier le chaperon et l'homus par la matière qui est utilisée. Le chaperon est fait d'étoffe et l'homus utilise la fourrure. Donc l'homus, c'était une coiffe qui était utilisée par tout le monde, mais qui va ensuite s'être très spécifique et s'être caractéristique du costume ecclésiastique et notamment des chanoines. À ce moment-là, elle est ouverte sur le devant et avec ce profil carré, donc avec ses deux cornes au niveau de la tête. Donc l'homus, c'est une caractéristique, c'est qu'elle est faite en fourrure. À partir du 14e siècle, notamment, alors on commence à porter de la fourrure avec le poil à l'intérieur à partir du 12e siècle, tout costume confondu, c'est pas spécifique au costume ecclésiastique, mais à partir du 14e, on commence à remontrer la fourrure à l'extérieur, et les costumes ecclésiastiques vont suivre cette tendance. Vu que l'on montre la fourrure, il va y avoir une distinction qui va se faire entre les costumes, notamment par la préciosité de la fourrure. Donc on va avoir comme ça les fourrures les plus précieuses pour les hauts prélats et les fourrures les plus simples pour les autres, avec toute une hiérarchie de fourrures et de prélats. On sait ainsi que les cardinaux vont essentiellement porter de l'hermine. Les chanoines vont eux être caractérisés par la fourrure d'écureuil, l'écureuil de Calabre ou l'écureuil de Petit Gris, je vais y revenir. Et les bénéficiaires, autres que les chanoines, plutôt de l'écureuil pourpre, doublé de soie. On a des comptes d'achat, des comptes commerciaux qui mentionnent tout au long du XIVe siècle l'achat de fourrures pour confectionner des homus d'escurieux de Calabre fourrés de menuvert, donc c'est ce que je vous ai mis, qui vont être mis à disposition des chanoines. Donc la fourrure, les escurieux de Calabre, c'est l'écureuil de Calabre, donc d'Italie, qui a une fourrure plutôt noire. Donc ça, c'est la première fourrure qui est utilisée pour les homus, enfin en tout cas c'est celle qui est utilisée au XIVe siècle. Au milieu du XIVe siècle, on va voir apparaître dans les contes, la fourrure de l'écureuil Petit Gris, que vous avez à côté, qui est un écureuil russe qui a la particularité d'avoir le pelage plutôt orangé l'été, mais qui va virer au gris argenté l'hiver, et c'est cette fourrure-là d'hiver qui va être très apprécié en Europe, et donc on va importer beaucoup de petits gris, notamment de Russie. Il y a tout un commerce qui va se mettre en place à cette époque-là. L'utilisation du petit gris pour les homus va augmenter petit à petit, et va finir par supplanter l'utilisation de l'écureuil de Calabre, ce qui a une telle force qu'au XVe siècle, la fourrure la plus précieuse de petit gris sera appelée gris d'homus. Donc c'est vraiment une fourrure qui est caractéristique des l'homus des chanoines. Par la suite, donc il va y avoir cette évolution-là des homus de chanoines, mais par la suite, il va y en avoir assez peu, au moins jusqu'au XVIe siècle. Ils vont rester fidèles à la fourrure de gris. La fourrure d'écureuil en vert ou la fourrure d'hermine, pardon. On a notamment un ouvrage de Hippolyte Hélio, c'est une histoire des ordres monastiques, religieux et militaires, etc., qui nous montre le costume des différentes congrégations, et le tome 2 est consacré aux chanoines. Donc on a des gravures comme ça de différents chanoines qu'on va revoir juste après. Donc les gravures ainsi que d'autres auteurs vont nous montrer que les homus vont pouvoir être conservés à peu près jusqu'au XVIIIe siècle. Passé le XVIIIe siècle, l'homus va disparaître du costume des chanoines. Les homus, c'est ça, un accessoire qui est assez précieux, qui coûte relativement cher. Au début du XIVe siècle, elles valent 6 livres pièce. Et à la fin du siècle, elles en valent 12. Alors elles ont doublé le prix, il faut savoir que la valeur de la livre va varier, mais on peut aussi savoir, enfin, J'ai également trouvé que la taille des fourrures utilisées, le nombre des fourrures utilisées, pardon, augmente entre le début du siècle et la fin du siècle. Au début du siècle, les Homius utilisent 18 à 20 dos de calabre pour l'extérieur, 34 à 36 ventres pour l'intérieur. Après, au début du 15e siècle, ça va utiliser 100 à 112 dos pour l'extérieur et environ 100 ventres pour l'intérieur. Donc il y a sûrement une augmentation de la surface. Il y a clairement une augmentation de la surface qui est fourrée et donc un changement de forme. Elles descendent sûrement plus bas. Elles sont, enfin, voilà, il y a toute une évolution qu'il faudrait peut-être étudier. Voilà. Pour comparer, du coup, au niveau du prix, c'est plus d'un an de salaire du pelletier, celui qui fabrique l'Homius. Voilà. Bon, il y avait un comparateur sur Internet, donc je me suis amusée à comparer, à convertir en euros, c'est un peu plus de 1000 euros pour une Homius. Ça reste un objet relativement précieux. Donc on va pouvoir passer à la suite. Et donc, je vous le dis depuis tout à l'heure, mais l'Homius, elle va connaître une évolution. Là, vous avez des gravures du tome 2 de l'histoire des ordres monastiques de Hippolyte Elio, avec les différentes formes que vont adopter les Homius. Donc la première fonction de l'Homius, c'est de tenir chaud. C'est le principe de la fourrure, depuis la préhistoire au moins. On la porte pour avoir chaud. Les chanoines passent un temps assez conséquent dans les églises, dans les cloîtres. Ce sont des lieux qui ne sont pas chauffés, qui sont souvent humides. Et ils ont également des offices la nuit. Donc, afin de pouvoir officier dans les meilleures conditions, ils vont se coiffer de fourrure. Et donc, ça va donner cet Homius. Dans un premier temps, on a cette forme de pèlerine avec un capuchon, ou sans capuchon, vous le voyez en deuxième. Et dans un deuxième temps, donc à partir de la fin du 14e, l'Homius va commencer à descendre, donc elle va arrêter de coiffer la tête. On coiffe quand même encore le cou. Elle va descendre petit à petit donc sur les épaules pour finir sur le bras, et donc on va avoir cette évolution de la forme. La première forme est totalement utilitaire. Il s'agit de couvrir les épaules, le cou et la tête, et au fur et à mesure, comme elle va prendre une fonction essentiellement symbolique, elle est là pour montrer l'office du chanoine. Elle va juste prendre la forme d'un rectangle avec une extrémité qui a été repliée et cousue. Donc qui peut encore servir de capuchon, mais qui est essentiellement là pour montrer le prestige de l'office de chanoine. Donc toujours une fourrure précieuse, mais qui a perdu aussi cette utilité première. Donc elle est probablement en usage, en tout cas on en trouve des traces en usage jusqu'au XVIIIe siècle avant de tomber en désuétude. Elle va être remplacée notamment par la Mosette, qui est une petite pèlerine courte et boutonnée sur le devant, tandis que l'Homius est souvent ouverte sur le devant. On va noter cependant que pour rappeler ce rôle de la fourrure précieuse dans le prestige du chanoine, on va retrouver des bordures d'hermine, ou plus trop d'écureuil, mais surtout d'hermine dans les costumes. Donc ça pourrait rappeler ce rôle de la fourrure un peu prestigieux. Voilà. Je vais faire une petite aparté sur le commerce de la fourrure, parce que je suis tombée sur une thèse assez complète sur le commerce de la fourrure au Moyen-Âge. Faut savoir que au Moyen-Âge, la fourrure, c'est tout ce qui va permettre de fourrer un vêtement, donc c'est une doublure. Il existe des fourrures d'été qui sont en soie, et des fourrures d'hiver qui sont en pelleterie. Donc une pelleterie, c'est une peau qui est encore munie de son poil, ou de son duvet. On trouve certaines peaux de canard qui ont été utilisées ainsi. Il faut savoir que toutes les peaux ne peuvent pas devenir des pelleteries. On a certains animaux qui vont donner que des peaux. Non, la peau de certains animaux ne va pouvoir donner que du cuir, comme par exemple le buffle, la vache ou le porc. Il y a certains animaux qui vont pouvoir fournir plusieurs types, la peau de certains animaux va pouvoir fournir plusieurs types d'éléments, comme par exemple on a le mouton qui va pouvoir fournir du cuir, de la laine, en plus des pelleteries. On a la chèvre et le lapin qui fournissent du cuir, du feutre et de la pelleterie. Et on a certains animaux qui sont réservés à la production de pelleterie, comme les agneaux, les castors, les phoques ou certains canards. Le commerce de pelleterie, je vais y arriver, existe au moins depuis l'Antiquité. Il y en a un qui s'est construit autour de la Méditerranée, notamment à cette époque-là. Donc toujours dans l'optique d'avoir plus chaud. Puis petit à petit, on va avoir des productions locales, sauf qu'il va y avoir une mode de ces fourrures à poils qui va se développer au XIIIe siècle notamment et qui va déséquilibrer ce commerce. Donc on va commencer à chercher d'autres productions et on va se tourner aussi notamment vers la Russie entre autres. Toutes les régions scandinaves et il y a tout un commerce international qui va se développer autour des pelleteries. Voilà, donc le travail des pelletiers est assez long, il y a pas mal d'étapes. Donc il y a le dépeçage qui est généralement effectué par les chasseurs, les peaux sont ensuite séchés pour être recroquevillés et pouvoir être transportés soit dans des tonneaux, soit dans des ballots de drap qu'on va fermer de manière hermétique pour éviter la prolifération de vers, larves, en tout genre, lors du transport. Une fois reçue, il va falloir éliminer tous les éléments putrescibles de la peau et la traiter pour qu'elle soit ensuite travaillée. Donc on va avoir les ateliers de pelletiers qui vont traiter la peau, et ensuite on va avoir le travail du fourreur qui lui va adapter la peau à un vêtement. Les deux fonctions peuvent être cumulées par une même personne, mais peuvent être aussi totalement séparées. Ça va dépendre des ateliers. Par illustration, la peau d'un écureuil va nécessiter un certain nombre d'étapes, notamment le boursage qui permet de coudre sommairement la peau avec le poil à l'intérieur pour pouvoir la faire tremper dans différents bains. Donc ça c'est le mouillage, des bains d'eau de moins en moins salée. La peau va ensuite être passée au foulage pendant plusieurs heures. On va ensuite retirer les viscosités du poil avec notamment de l'huile d'olive. Ça va être le sapinage. Il y a ensuite le graissage du côté cuir de la peau. On va ensuite la sécher à nouveau, puis la passer sous une baguette, enfin la frapper avec une baguette, c'est le broyage. Il y a ensuite l'écharnage où on va venir gratter le côté cuir. On a notamment un outil de tanneur que l'on pourra expliquer lors du futur article. J'ai pas pensé à le récupérer. Il y a ensuite le battage de la peau par des verges souples qui sert cette fois-ci à redresser le poil une fois que la peau a été décousue. On va ensuite éliminer la graisse qui avait été mise, donc le dégraissage. On va la faire tourner dans des tonneaux, etc. etc. Elle va être ensuite séchée à nouveau, puis saupoudrée de craie et tirée avec un fer. Toutes les peaux ne vont pas subir l'ensemble de cette procédure. On a des peaux qui vont être plus fragiles, notamment les peaux de martre et de renard. Il y en a d'autres qui vont, elles, subir un processus beaucoup plus long. Les peaux d'agneau et de mouton, qui, elles, sont plus fortes, donc vont avoir des bains pendant 2 jours, puis vont être battues et foulées pendant 2 à 3 semaines, etc. Donc on va avoir toute une variété de traitements suivant les différentes peaux. Il peut y avoir des traitements supplémentaires pour essayer d'unifier la couleur de la fourrure ou de faire briller le poil, mais il faut faire attention. Tout ce qui est tentative de tromperie ou d'essayer de rendre la peau plus précieuse qu'elle ne l'est est sévèrement contrôlée et sanctionnée. Donc voilà, il y a pas mal aussi d'exemples dans les différentes archives. Une fois les peaux traitées, elles sont montées en nappe ou en peine et elles vont ensuite pouvoir être données au fourreur. Voilà. C'est l'ensemble de la peau qui va pouvoir servir. On va séparer la peau en différentes parties. Les pattes, le museau, l'oreille, la gorge, la croupe et la queue sont des parties qui sont un peu moins précieuses, un peu moins estimées que le dos ou le ventre, mais elles vont également servir et être assemblées dans des peines et servir pour différents vêtements. On a différentes espèces d'animaux qui vont être concernées. On va avoir par exemple l'écureuil, le loup, le renard, le lynx, la genette, le chat sauvage, la marthe, la fouine, le loir, qui elles sont des espèces qui sont chassées pour leur fourrure. On appelle ça à ce moment-là des pelleteries sauvages, donc qui sont issues de la chasse. On a un autre type de pelleteries qui sont les pelleteries domestiques qui elles sont issues de l'élevage. Notamment les moutons, agneaux, chèvres et chats aussi. Donc on récupère leur peau et leur fourrure par le biais soit des élevages, soit des bouchers. Toutes les espèces animales ne se valent pas. Il y en a qui sont plus précieuses que d'autres. C'est essentiellement une histoire de réputation. Le chat, par exemple, a une fourrure très peu réputée. La chèvre est réputée pour résister à la pluie, mais elle est plutôt associée au rôle de berger, donc au final elle est assez peu utilisée. Dans l'une et l'autre des catégories, c'est l'écureuil et l'agneau qui sont le plus utilisés. Et après, les fourrures les plus précieuses, notamment la martre et l'hermine, sont connues et utilisées, mais essentiellement par les couches les plus hautes de la société. Il y a le cas particulier du ver, donc de l'écureuil, qui lui est un cas particulier puisqu'il a une fourrure qui est bicolore. Donc les pelletiers ont un petit souci pour comment associer ces deux couleurs, ce qui va donner différentes constructions que je vous ai mis un petit peu. Donc on a le ver qui est l'assemblage uniquement de dos de fourrure. Le menu vert, c'est l'assemblage de ventre. Le ventre avec sa bordure colorée, ce qui va donner une forme de quadrillage sur la fourrure. Le menu vert épuré, c'est que lorsque l'on va enlever ces bordures colorées, on va se retrouver avec une fourrure essentiellement blanche. Et on a le gros vert qui est un assemblage de dos et de ventre alterné. C'est ce qui va donner le motif du vert en héraldique. Il y a une confusion un petit peu sur ces appellations entre le vert qui est que les dos et le vert héraldique. Donc voilà, je vous avais mis une petite illustration. Donc on a plusieurs écureuils aussi qui sont connus. Donc on a l'écureuil de Calabre qui est plutôt noir. On a le petit gris qui vient de Russie. Ce sont les deux les plus prestigieux, même si l'écureuil roux donne une fourrure qui s'appelle le pourpre, qui est aussi utilisée. Et donc on va pouvoir passer à la deuxième partie. Je sais pas si je vais un peu vite ou non, ça va. Non, ça a l'air d'aller, je sais pas. Donc là. Ah oui, les peines en fait, c'est les différentes parties de peau. Donc une fois qu'on a la peau d'écureuil qui a été traitée, on va séparer toutes les parties, le dos et le ventre chacun d'un côté. Enfin ça dépend de l'assemblage que l'on veut faire, les pattes, la croupe, la queue, la tête, toutes les parties vont être séparées et assemblées par donc toutes les queues ensemble, toutes les pattes ensemble, et cet assemblage va avoir une certaine dimension, ça dépend de la ville dans laquelle la fourrure est traitée, et c'est ce que l'on va appeler une nappe ou une penne, et ça va former, c'est généralement rectangulaire ou carré. Et donc c'est ça qui va être utilisé pour fourrer ensuite ou construire totalement les différents vêtements.
C'est un peu comme une unité de mesure, quelque part.
Oui, c'est ça. Et donc on va avoir la peine à la mode de Bruges, à la mode de Paris, etc., qui ont différentes tailles que l'on va calculer en fonction des rangées de fourrures. Donc, pour la reconstitution, on est parti du gisant de la collégiale. essentiellement de l'humus, donc il y a des parties qui sont un petit peu manquantes. Et on a longuement réfléchi sur comment on peut reconstituer cet humus. Tu peux passer à la suivante. Donc j'ai reconstitué simplement la suite. On s'est posé la question de l'arrière de l'humus qui n'est pas visible sur le gisant. Il se trouve que le bord de l'humus descend au fur et à mesure sur le bras, ce qui laisse penser que ça continue à descendre dans le dos, et possiblement avec une pointe ou un simple arrondi. On a un petit peu de tout dans les écrits, donc on était plutôt parti sur une pointe. Enfin, je suis plutôt parti sur une pointe. On peut passer à la suivante. Donc j'ai pris aussi tout un tas de mesures sur le gisant pour pouvoir ensuite les retranscrire. Et ensuite, on a mené une grande réflexion sur la forme de l'humus en elle-même, de comment passer de cette image et d'une forme en 3D à une forme en 2D, donc pour pouvoir ensuite construire le patron de l'humus. Donc on s'est beaucoup amusé avec des tas de petits papiers de toutes formes pour finalement aboutir à une forme à peu près valable. Notamment, ce qui pose énormément de questions, c'est les deux cornes sur le dessus de l'humus, puisque l'arrière, que ce soit en pointe ou en arrondi, ça reste une forme de chaperon. C'est quelque chose qui est assez connu, donc on a déjà des patrons qui étaient construits. Donc c'était vraiment l'histoire des deux cornes. Et du coup, je reprends mon petit cours. Donc ça, c'est bon. Une fois qu'on s'était mis... On était arrivé à un consensus sur une forme en 3D qui est passée en 2D. Il a fallu faire des tests. Donc ça, c'est la forme à laquelle on est abouti à la fin, en sachant que le haut de la capuche, c'est le carré qui vient se rabattre sur les côtés. Et les angles vont former les deux petites cornes. Donc ça, c'est bon. Donc, après, j'ai décidé... afin d'aller un peu plus rapidement et puis de vraiment valider la forme de ce patron, de le réaliser en taille réduite, donc notamment pour une poupée. Donc il faut repartir du schéma que l'on a réalisé. Et j'ai fait un moulage directement sur la tête, donc avec un papier très souple, ce qui m'a permis d'aboutir à un patron que j'ai reporté sur une toile, un tissu... quelconque, entre guillemets, qui me permet de vérifier. J'ai cousu le haut de la capuche, voilà, donc avec les coutures, avec un fil en contraste, retourné, et ensuite posé sur la poupée, donc pour vérifier qu'on avait bien cet effet avec les deux cornes. Donc ça nous permet de valider le schéma que l'on avait réalisé dans un premier temps. Donc une fois qu'on l'a fait en taille réduite, le tout c'est de passer en taille réelle. Et donc là, rebelote, on refait un patron en papier, avec les mesures cette fois-ci du gisant. Donc j'ai essayé de rester au plus proche, donc j'ai repris les différentes mesures, notamment des cornes vers l'avant, qui descendaient sur le devant, etc. Donc ça a été retransmis sur le patron, et la taille réduite a permis d'avoir les angles pour faire les écarts de capuche. Donc on fait le patron en papier, que l'on reporte, là encore une fois, sur une toile, plié en deux, comme ça on découpe tout beaucoup plus vite. Pareil, on coud le haut, on retourne, et donc ça donne une humus. J'avoue que j'ai pas mis là où j'ai apporté, mais ça fait vraiment les deux cornes également. Donc là encore, une fois, l'étape est validée, donc on va passer à une troisième étape. Donc on a vu que les humus étaient faites plutôt en fourrure. Je ne suis pas allée chercher de la vraie fourrure. Outre le fait que le commerce de la fourrure est aujourd'hui extrêmement réglementé, je n'ai pas du tout le savoir-faire pour ni traiter ni coudre de la fourrure. Donc je fais avec de la fourrure synthétique, qui est plus facile à travailler, puisqu'il s'agit en fait d'un tissu. L'arrière de la fourrure synthétique, c'est une toile, donc ça se travaille comme un tissu. Le choix des fourrures a été dicté aussi par la disponibilité en magasin. J'ai choisi une fourrure assez noire, à poils pas trop long, donc pour rappeler l'écureuil de Calabre, puisque les gisants de la collégiale sont plutôt du XIVe siècle et c'est ce qui était le plus utilisé. À l'intérieur, il aurait fallu du menu vert, donc les ventres avec les bordures encore noires. Bon, ça se trouve pas en magasin, ce genre de motif, donc j'ai pris un blanc cassé pour rappeler. Donc ça, c'est du menu vert épuré, sans les bordures de l'écureuil. Donc, mêmes étapes que pour la toile, sauf que cette fois-ci, on va le faire deux fois, puisqu'on a les deux côtés de l'humus, on a l'extérieur en fourrure noire et l'intérieur en fourrure blanche. Donc, on commence par reporter le patron papier sur le dos de la fourrure. Donc, ça, c'est ce que vous avez en haut, on a le contour ancré. On va le découper. Ça, c'est compliqué, ça met des poils partout. Et on refait la même chose avec la deuxième. Donc une fois qu'on a les deux parties, on peut passer à la suivante, on va coudre les deux capuches, donc séparément. Donc là, au début, elles sont juste épinglées, la deuxième partie, elles sont cousues, donc chacune séparément, puis retournées, donc avec le côté poil. Une fois que c'est fait, et il ne faut pas oublier les petites pendeloques qui sont en bas de l'humus. Alors il se trouve qu'à l'époque c'était sûrement des queues d'écureuil, donc déjà plus ou moins toutes faites. Moi il a fallu que je les fasse. Donc voici toute la petite étape, un petit patron que l'on reporte, on coud les deux épaisseurs ensemble, on coupe le surplus, et ensuite on retourne. Donc un certain nombre de petites pendeloques. Donc ensuite il faut assembler le tout. Vous avez donc les deux épaisseurs qui sont assemblées endroit contre endroit, c'est-à-dire que l'épaisseur noire a le poil qui est vers le bas, l'épaisseur blanche a le poil qui est vers le haut. Les deux poils sont l'un contre l'autre. Et sur le dessous, ça ne se voit pas énormément, mais on a toutes les petites pendeloques qui sont à l'intérieur et qui sont épinglées également. Donc on va coudre tout le tour en laissant un trou pour pouvoir le retourner ensuite. Donc la deuxième photo, c'est une fois que la couture a été faite. Troisième photo, l'humus a été retourné. Et donc, on l'a une fois terminé. Voilà, donc j'ai les différents patrons. On a la petite humus de la poupée, la toute première. Donc avec les différents patrons qui sont en papier, on va avoir aussi donc, la deuxième humus en taille réelle, en toile. Donc pareil, avec les deux cornes qui vont se former. Le but étant vraiment juste de valider les cornes, les contours n'ont pas été plus travaillés que ça. Et après, on a l'exemplaire final, donc en fourrure. Et du coup, je suis obligée.
Je vais peut-être allumer la lumière, parce que c'est dommage de pas...
De ne pas voir ce défilé de mode incroyable. Et donc, je vous promets, ça tient bien chaud. Donc ça, c'était... Voilà. Et donc, voilà. Avec les deux cornes qui se forment bien. Et... voilà. Je sais pas. Et donc, à l'intérieur, la fourrure plutôt claire. Et à l'extérieur, la fourrure plutôt foncée. Et donc, pour terminer, comme il ne faut jamais faire les choses à moitié, on a fait la deuxième aussi. Parce qu'on a deux formes d'humus. On a la forme en chaperon que portent les gisants. Et on a ensuite la forme beaucoup plus symbolique qui va être portée cette fois-ci sur le bras. Donc là, en petit gris, en simili petit gris. Donc c'est un long rectangle avec des franges au bout. Et dont le haut a été juste replié et cousu sur les petits côtés. Ce qui permet d'avoir encore une fois, si l'on souhaite, la capuche avec les deux cornes, qui est beaucoup plus large. Mais qui était surtout plutôt portée soit sur les épaules si on voulait encore se tenir chaud, mais essentiellement sur le bras. Bras gauche. Voilà. C'était juste histoire de montrer qu'on a de la fourrure précieuse et que l'on est chanoine. Donc vous avez le petit schéma qui est beaucoup plus simple globalement à réaliser. Et je crois que c'est tout. Voilà.
Alors, bravo. Bravo Muriel.
Alors nous étions en direct de la SRAC avec la conférence de Muriel Giraudeau que je remercie. Bien évidemment, il y a eu présentation de l'OMUS sous forme de diapositive et à la radio, nous sommes absolument incapables de vous présenter les diapositives. Ceci dit, si vous êtes intéressé pour ça, en savoir plus sur l'OMUS, vous retrouverez tout cela, le compte-rendu de cette conférence, dans le bulletin de la Société archéologique du pays chauvinois. Je vous informe également que la prochaine conférence aura lieu le 1er avril à 20h30 et sera animée par Frédéric Gerbert de l'INRAP et concerne les apports de 15 ans de suivi de travaux de l'histoire de Poitiers. Eh bien, au mois prochain, en avril. Au revoir.